8 décembre. Mes résolutions se sont envolées. Pour la première fois, je me suis révoltée. Je commençais à perdre patience. Chaque jour, Madeleine me couvrait plus de ridicule. Il n'y avait pas de raison que cela cessât. Peut-être ai-je agi dans un accès de colère. Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. Voilà ce qui s'est passé. En rentrant, à la fin de l'après-midi, je me rendis dans notre chambre à coucher. Après avoir tourné quelques instants, j'aperçus sur la cheminée de magnifiques orchidées. Leur présence ne me surprit pas. Ce qui attira mon attention, ce fut la corbeille d'osier et les rubans qui la paraient. Si loin de moi était la pensée de soupçonner quoi que ce fût, que durant quelques minutes, je n'y prêtais plus garde. Je m'assis par désœuvrement, seulement je regardais la corbeille. Un doute germa alors dans mon esprit, mais je le chassai tellement il me semblait impossible que ces fleurs se trouvassent dans cette chambre si elles étaient compromettantes. Cependant, plus je les examinais, plus elles me semblaient venir d'un autre monde. Elles devenaient petit à petit à mes yeux comme le symbole de la luxure et du mensonge. Je les regardais plus fixement encore. « Ce n'est tout de même pas possible qu'elle ait acheté ces fleurs, » pensais-je. Cette réflexion m'est familière. C'est celle des maris qui suspectent leur femme, dont ils connaissent les ressources et qui pourtant apparaît toujours avec des robes et des bijoux dont ils ignorent la provenance. Mais si elle ne les avait pas achetés, elle n'aurait pas l'audace de les mettre dans notre chambre, » ajoutai-je pour me rassurer. Je me levai, tâchai de trouver la marque du fleuriste, puis, ramassant une feuille froissée de papier cristallin, je la dépliai. Cette corbeille venait de chez Jolibois. Sans penser à mes mouvements, parce que j'étais préoccupé, je la changeai de place, la mis en évidence au milieu de la pièce, puis, refaisant ce que j'avais fait tant de fois quand j'étais enfant et que j'étais jaloux d'un cadeau qu'on avait pu faire à un cousin, je la plaçai sur une chaise devant la porte, de manière qu'en montrant, Madeleine la renversa. Je venais de me rasseoir lorsque j'entendis un bruit de voix dans le couloir. D'un bond, je me levai. Pour que ma femme ne s'aperçût pas de mon manège, et surtout pour ne pas déchaîner sa colère, je courus à la corbeille. Je m'apprêtais à la poser sur la cheminée lorsque Madeleine parut, me surprenant dans la posture grotesque d'un visiteur touchant un objet ne lui appartenant pas, ce qui accrut ma mauvaise humeur. Dès que la porte fut refermée, je demandai sèchement « Comment s'appellent ces fleurs ?»« Ce sont des orchidées. »«
On te les a données ?»«
Non. »«
Tu les as achetées ?»«
Non. »
« Enfin, d'où viennent-elles »«
Qu'est-ce que cela peut te faire ?»«
J'ai tout de même le droit de savoir d'où viennent ces fleurs. »«
Et moi, n'ai-je plus le droit d'avoir les fleurs qui me plaisent ?»
Ce fut avec la plus profonde sincérité que Madeleine me posa cette question.
Je commençais à m'énerver. « Je te prie de me dire qui t'a donné ces fleurs. »«
Cela ne te regarde pas. »
Cette réponse, Madeleine me la faisait souvent. Lorsqu'un objet incarne le plaisir, la beauté, enfin tout ce qui appartient à son idéal, elle est convaincue qu'elle ne doit d'explication à personne à son sujet, et l'irritation gronde en elle que je me permette de l'interroger. En désirant connaître la provenance de ces fleurs, on eût dit que je voulais forcer la partie la plus secrète de son âme. Elle devait m'être tellement lointaine que c'était sans penser que je pusse lui demander leur origine qu'elle les avait laissées dans notre chambre. Elle les avait même posées en évidence sur la cheminée et, tout à coup, aux questions répétées, elle se rendit compte de sa folie.
« Je te demande de me dire qui t'a donné ces fleurs »
dis-je cette fois avec violence. Madeleine perdit son sang-froid. Elle regrettait sa légèreté. La peur l'envahissait. Pourtant, elle ne se résolvait pas à répondre franchement. Dans cette volonté de nier, je découvris une certaine beauté. Ma femme eût pu avouer, et bien que je feignisse toujours de ne jamais croire aux histoires compliquées, aux histoires où le narrateur est obligé de remonter très loin pour rendre vraisemblable son récit, elle aurait fini par me convaincre.
mais elle ne le voulait pas. Elle eût pu prononcer un nom quelconque, mais comment eût-elle fait pour expliquer les raisons de cet hommage? Et s'il n'y avait rien que d'anodin dans ce geste de mépris, comment eût-elle fait pour se justifier, elle qui ne se révolte jamais contre l'injustice? Enfin, l'accusait-on d'avoir pris une pomme qu'elle niait parce que, l'ayant ramassée sur une pelouse, elle avait conscience de ne l'avoir pas prise, et quand, finalement, elle était obligée de reconnaître qu'elle l'avait prise, puis qu'elle l'avait mangée, il ne lui venait pas à l'idée de se disculper en disant la vérité, c'est-à-dire qu'elle l'avait trouvée. En ce qui concernait les orchidées, elle niait de la même façon, avec d'autant plus d'obstination qu'elle sentait les apparences contre elle, car elle ne croit pas, par une sorte de fierté, au secours des explications.
« Veux-tu me dire qui t'a donné ces fleurs ?»«
Non, et non, et non !» Elle est si peu consciente de l'état d'esprit d'un homme qui interroge qu'elle répond aussi sèchement quand l'impatience transparaît dans la voix qu'au commencement, qu'elle élève même le ton si son interlocuteur l'élève, cela sans varier une seule fois dans ses réponses jusqu'au moment où elle éclate en sanglots. « Si je ne me le dis pas, j'irai chez la fleuriste. » Fis-je encore, toujours calme, me réservant comme un atout de citer Jolibois. Cette menace impressionna terriblement Madeleine. S'il y a quelque chose qui lui répugne, ce sont bien ces démarches que l'on fait pour contrôler un emploi du temps, non qu'elle trouve ces vérifications honteuses, mais par amour-propre à l'égard de ceux que l'on interrogera. Elle aime à laisser partout une bonne impression, et partie, elle tâchera de deviner ce que l'on a dit d'elle en son absence. Il est humiliant à ses yeux de retourner chez un commerçant. Pour rien au monde, elle n'eût voulu que le geste, qu'elle trouvait sans doute admirable, de celui qui lui avait donné ses fleurs, se termina par une visite de son mari chez la fleuriste. Elle se mit à trembler. « Tu n'iras pas chez la fleuriste, dit-elle. Tu ne feras pas cette méchanceté, sans quoi je ne te reverrai jamais. » Elle ne pensait toujours pas à s'expliquer, car elle n'avait rien fait de mal. Mais elle se conduisait exactement comme si elle eût vraiment mal agi. Et c'est là où je manquais de générosité et fis preuve de cruauté. Je savais très bien que Madeleine était droite, mais comme les apparences étaient contre elle, c'était machinal chez moi de ne m'en tenir qu'à ces dernières. Je jouais, avec quand même, dois-je dire pour m'excuser, un fond de sincérité, le rôle du mari sûr de son fait, ayant enfin la preuve de l'infidélité de sa femme. Depuis longtemps déjà, je cherchais un motif de cette envergure. Inconsciemment, j'attendais une raison de m'emporter. Et, tout en m'échauffant, je sentais que j'avais une occasion unique d'être le plus fort, parce que, malgré tout, il y avait un fait qui, si ma conscience pouvait l'excuser, n'en restait pas moins grave si je la faisais taire. « Si tu ne me dis pas immédiatement qui t'a donné ces fleurs, je vais chez Jolibois. » Cette fois, l'effet fut terrible. Madeleine n'eut plus la force de cacher la vérité. Elle hésita pourtant quelques instants. Finalement, elle murmura « Bélange !» Elle me regarda, atterrée, puis éclata en sanglots. « Ah ah, je comprends tout maintenant, je comprends tes sorties, je comprends que tu n'aies jamais le temps de rester avec moi. » Je n'écoutais plus que ma jalousie et pour la rendre plus violente, j'y ajoutais ma rancœur. « Ces messieurs plaisent aux femmes, c'est naturel, ils ont l'âme si belle, ils comprennent si bien votre sensibilité. » Je parlais avec volubilité comme un homme qui revient à la vie. Les événements me donnaient raison. J'avais toujours pensé que les choses se feraient d'elles-mêmes, que la vérité éclaterait un beau jour et confondrait Madeleine. Le jour était arrivé. Je pouvais partir sans hésitation, sans souffrance, puisque ce n'était pas moi qui avais fait le mal, mais elle. Je pouvais partir en jurant que jamais je ne l'aurais fait si elle ne m'avait pas trompé. Je pouvais partir en le jurant et aussi, avec de la bonne volonté, en le croyant. J'étais presque sincère. J'allais jusqu'à mettre une note tendre dans mes paroles. « Puisque tu l'as voulu, puisque tu as préféré un inconnu à mon amour, que ta volonté soit faite. Tu seras heureuse, c'est tout ce que je désire. » Et, aussi invraisemblable que cela paraisse, et sans pourtant que ce fût plus bas que le reste, j'ajoutai « Tu le regretteras plus tard. Tu verras que tu regretteras de m'avoir préféré un autre. » Malgré tout, il y avait de l'émotion dans ma voix. La vérité n'était pas très au fond de moi-même, et si elle m'empêchait de m'emporter, c'était à cause du pressentiment d'avoir plus tard du remords. Plus tard, mais pas aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y avait ces fleurs. Elles étaient là. Un homme les avait données à Madeleine. Madeleine les avait acceptées. Pendant que je parlais, Madeleine me regardait avec angoisse. En dépit de sa douleur, pas une seconde il ne lui venait à l'esprit de se disculper. Jadis, quand je lui faisais d'autres scènes, plus violentes encore pour des motifs moins graves, elle avait accepté de la même manière les injures que je lui adressais, comme si elle les eût réellement méritées, les larmes aux yeux. Elle m'écoutait sans m'entendre. Tout ce dont elle se rendait compte était que la colère m'envahissait et qu'elle était la cause de cette colère. Je me mis à marcher de long en large, toujours en parlant, non à Madeleine, mais à moi-même. Naturellement, elle a un amant très sensible, ce qu'elle a voulu toute sa vie. Au fond, elle est contente. Pourquoi l'empêcherais-je d'être heureuse? Je n'en ai pas le droit, elle ne m'aime pas. De temps en temps, je m'interrompais pour l'apostropher. N'est-ce pas que tu ne m'aimes pas? Et elle ne répondait toujours pas, comme si réellement elle ne m'avait pas aimé. Tout à coup, comme je me répétais et que ma colère risquait de s'apaiser, je dis « Puisque c'est ainsi, il vaut mieux que je parte. » Je pris une valise et jetai pêle-mêle des chemises. En la voyant dans mes mains, Madeleine eut subitement peur, mais elle ne bougea pas. Il y a en elle quelque chose qui l'empêche d'agir tant que la dernière seconde n'est pas arrivée. Je me dirigeai vers la porte. Alors, comme une folle, Madeleine, qui n'avait pas dit un mot, qui n'avait fait que m'observer, se jeta sur moi en sanglotant. Ce n'était plus la femme qui m'avait écouté, mais une autre femme frémissante qui semblait crier « Assez de toutes tes méchancetés! Tu sais que je suis incapable de te tromper !» qui semblait même, derrière ses larmes, sourire pour me montrer combien tout cela était ridicule et dire « Mais regarde-moi donc! Est-ce qu'une épouse comme moi peut être indigne de son mari ?» Il ne restait qu'un être éperdument effrayé de la conséquence de son acte. Il était impossible de ne pas s'en apercevoir. Je sentis alors combien fragiles étaient mes preuves, combien dures avaient été mes paroles. Mais j'avais été trop loin. C'était même sans plus masquer ma voix, sans plus me donner l'air d'un homme offensé, que j'essayais de me dégager en disant « Allons, laisse-moi, tu vois bien qu'il faut que je parte. » Tellement il était visible que tous les tons que je pouvais prendre n'avaient plus d'importance et que c'était à l'être que j'étais réellement que Madeleine s'accrochait. Mais elle ne me lâcha pas. Elle balbutiait des paroles sans suite et toujours sans tenter le moins du monde de se justifier parce qu'au fond d'elle-même, il y avait la certitude que je n'avais rien à lui reprocher. Je réussis à ouvrir la porte. À cause de ses sanglots, de ses râles, il m'apparut que Madeleine n'était plus Madeleine, mais un être qui souffre, que l'effort que je faisais pour me séparer d'elle n'était plus le même, mais celui d'un prêtre pour se séparer d'un condamné. Je souffrais terriblement, mais plus à cause de Madeleine. Ses larmes, sa détresse, lui ôtaient sa personnalité. Pourtant, je faiblissais. Je dis « Mais je ne m'en vais pas. Je vais passer quelques jours à Versailles. Je reviendrai. Je sais bien que tu es gentille, que ces fleurs, ce n'est rien. » Une seconde, je faillis de nouveau rentrer dans la chambre. Mais je me raidis. « Il faut commencer, pensais-je. Après, elle sera beaucoup plus gentille avec moi. » Le plus difficile a déjà été fait. De nouveau, j'essayai de me dégager et, contre mon attente, je me trouvai brusquement libre, sans attache. Madeleine était là, devant moi, méconnaissable. Je souris. D'ailleurs, il fallait que j'aille aujourd'hui à Versailles. Je ne te l'avais pas encore dit pour ne pas te faire de la peine. Mais une sorte de fureur monta subitement en moi, qu'elle ne me retint plus, qu'elle me laissa libre. Je voulus lui crier mon mépris, mais j'étais accablé par cette liberté imprévue, par le renoncement de Madeleine. « Tu ne vois donc pas que je pars ? » dis-je avec colère. Madeleine ne répondit pas. Elle semblait indifférente à tout ce que je pouvais faire. Je sentis alors monter en moi un profond dégoût de moi-même. Quand, pendant des mois, on a réussi à suivre la ligne de conduite que l'on s'est tracée, quand, grâce à une volonté de faire, on n'a pas failli depuis une année entière, que déjà l'on croit s'être amendé, transformé, et que tout à coup, dans un moment de colère, on redevient pire que jamais, on est saisi du sentiment le plus pénible qui soit, le même sentiment qu'éprouve un travailleur lorsqu'après une vie de labeur, il voit un soir le fruit de son travail s'évanouir. Tout maintenant est à recommencer. Aujourd'hui, je suis redevenu l'homme de jadis. Qu'est-ce qui faisait de moi, hier, un homme malgré tout heureux ? C'était que chaque jour m'éloignait davantage de ce que j'avais été, c'était que le temps fortifiait ma volonté et rendait plus improbable une défaillance. Mais à présent, comme il me sera difficile de me dominer. Ce que j'ai fait aujourd'hui, chaque fois qu'une tentation surgira, je le referai. Je me dirai, à quoi bon, puisque hier, avant-hier, il y a une semaine, je n'ai pas su résister à mes passions. Je jetai au loin ma valise et, comme un père devant son enfant, je m'agenouillai devant Madeleine, la suppliant de me pardonner. Mais elle demeura insensible. 9 décembre. J'ai passé une nuit affreuse. Hier soir, après le dîner, Madeleine s'est brusquement habillée. « Je vais coucher chez mon père » m'a-t-elle annoncé froidement. Je tentai de la retenir, sans trop insister pourtant, de peur de provoquer une crise de nerfs. Elle est partie, je suis restée seule. Après avoir lu une heure durant, j'errai dans l'appartement désert. Tout me rappelait Madeleine. Quelquefois, elle apparaissait devant moi, comme si elle n'était pas partie. Puis, subitement, elle s'évanouissait ainsi qu'un fantôme, et tout demeurait vide. Il y avait alors un espace nouveau entre chaque meuble. Les objets dont elle a coutume de se servir avaient une immobilité plus grande. Tout semblait figé. Les lumières perdaient de leur éclat, et lorsqu'en sortant d'une pièce, j'en traversais plusieurs autres pour revenir finalement à mon point de départ, une impression pénible de solitude m'envahissait, semblable à celle que je ressens toujours lorsque le soir, à mon retour, il n'y a personne à la maison. La pensée de la rejoindre chez son père me vint alors que j'étais déshabillée. Ce désir de sortir, ma toilette de nuit faite, mes journaux du soir que je lis avant de m'endormir, posés sur le lit, étaient fréquents chez moi quand je vivais seule. Car, au fond, jamais je n'ai été un homme d'intérieur. Partout où je me suis trouvée, c'était toujours provisoirement. La nuit ne m'effraie pas et je l'affronte aussi naturellement que le jour. Mais ce soir-là, je me fis violence, et l'ennui de me revêtir aidant, j'abandonnai cette idée. Et puis, une sorte de peur de revoir des gens du soir peu sensibles à autrui, le dégoût de recommencer à me montrer me retenait. Je me couchai, et, à la lumière d'une petite lampe de chevet, je me mis à penser. J'étais calme, je songeais à toutes les démarches, à toute la fièvre de la journée. J'étais à présent moi-même, sans témoin, sans excitation. Tout à coup, j'eus l'impression que Madeleine, au lieu d'aller chez son père, avait pris le train. Je me vis lui parlant au moment où elle montait en wagon. « Madeleine, ma chère Madeleine, tu es insensée de partir ainsi. Tu ne le dois pas. Tu ne songes donc pas à la peine que tu me fais ?» Elle partait quand même. Puis je la rejoignais dans une chambre d'hôtel à Bruxelles. « Tu ne te rendras donc jamais compte, ma chérie, que tu n'es pas raisonnable. Et ton mari, il ne joue aucun rôle dans ta vie. Tu le traites absolument comme un étranger. » Toujours dans mon imagination, je la rencontrais un soir. « Tu vois qu'il est bien inutile de te cacher. Tu m'appartiens et quoi que tu fasses, Dieu te mettra toujours sur mon chemin. » Bien que les situations fussent différentes, je prononçais ces paroles de la même voix monotone où apparaissait qu'il n'y avait rien à faire pour m'échapper. Soudain, je me figurais qu'elle rentrait. J'entendis la clé dans la serrure. Elle s'approchait de notre lit. « Pourquoi, ma chérie, m'avoir causé une telle peur? Puisque nous devons vivre ensemble, sois patiente. » Je m'écoutais parler, sans très bien me rendre compte que je m'adressais à une absente. Mais tout à coup, je compris qu'il me semblait d'un homme génial d'être victime d'hallucinations et que, partout, je laissais développer avec complaisance les idées plus ou moins sensées qui traversaient mon esprit. Pour couper court à ces divagations, je me levai, allumai tous les lustres et me mis à parcourir l'appartement, non sans toucher en passant les meubles, les murs, les vases, les radiateurs, afin de m'assurer sans doute que rien n'était changé. Mais tout ce qui faisait la douceur de mon intérieur s'était évanoui, comme si je me fusse trouvé dans une cellule. À ce moment, il se passa un événement difficilement croyable. Moi qui souffrais au plus profond de mon être, je n'eus plus alors qu'un seul désir, m'assurer que mon confort était le même. Je me rendis dans la salle de bain, je portai machinalement les parfums de Madeleine à mes narines, touchai d'un doigt distrait les conduites d'eau chaude, puis, revenant dans ma chambre, je m'assis sur le lit pour expérimenter son élasticité. Je voulais donner de la vie à une douceur à laquelle je ne pensais jamais, mais que, à présent, je craignais d'avoir perdu. J'eus beau faire, cette douceur avait disparu. Les choses étaient là, mais la chaleur en était absente. Rien n'avait changé, et pourtant plus rien n'existait. Je fis un effort pour tout oublier et retrouver ce qui m'environnait, ne fût-ce que pour un instant, quitte après à souffrir, mais ce fut en vain. Je me recouchai, non sans avoir préalablement fermé toutes les portes, afin de me trouver dans l'espace le plus petit possible. Je mis une glace à la portée de ma main, j'étalai des journaux sur mon lit. Alors l'absence de Madeleine me parut moins pénible. J'avais l'impression de vivre dans l'emplacement réservé à une seule personne. Durant un court espace de temps, je me sentis mieux, mais brusquement, la solitude qui m'entourait se fit plus grande. « Si je me lève encore, pensais-je, comme j'éprouvais le besoin de quitter de nouveau mon lit, cela ne servira à rien et je me recoucherai dans un instant. » Je restais donc étendu, mais avec cette sensation étrange et désagréable que l'on éprouve quand on ne fait pas ce dont on a envie parce que c'est inutile. Sans réfléchir, obéissant à un besoin plus fort que la raison qui me commandait de demeurer couché, je me levai d'un bond. Malgré l'élan, je restai un instant immobile au pied de mon lit, puis me souvenant des portes que j'avais fermées, j'eus brusquement conscience que, si je les ouvrais, il faudrait que je les refermasse aussitôt après. Alors, sans réfléchir, je me recouchai. Un long moment, je luttai pour me convaincre que tout mouvement était vain. Puis, comme un fou, je sautai hors de mon lit, je courus ouvrir une porte, je me rendis dans le salon que j'illuminais, puis dans la salle à manger, puis dans une autre chambre. Ce n'était pas par besoin de liberté, d'air, mais pour démolir tout ce que j'avais préparé avec tant de soin. Et à l'endroit le plus éloigné de la chambre où j'avais organisé l'oubli et la tranquillité de ma nuit, je m'effondrai dans un fauteuil en serrant mes tempes dans mes mains pour tâcher de pleurer. Aucune larme ne coula de mes yeux. Comme si je couvais une maladie, j'étais fiévreux, sec, crispé, si bien que je ne pouvais pleurer. Prenant ma lèvre inférieure entre mes doigts, je la tirai de toutes mes forces en la retournant de façon à me faire mal. J'étais absolument méconnaissable. Au sommet de cette crise, j'imaginais tout à coup que Madeleine rentrait. « C'est fait de moi, je meurs doucement !» lui criai-je. Alors, un bien immense m'envahit. Madeleine était là. Qu'importaient mes larmes ? Tout était pour le mieux. Je sortais d'un mauvais rêve. Mais la paix qui tombait sur moi s'arrêta avant de m'avoir recouvert. Il venait de m'apparaître que j'exagérais ma douleur, que c'était pour la rendre plus belle que je bataillais avec un fantôme. Je quittai mon fauteuil. Il n'était pas minuit. « Il faut que je dorme tout de suite, pensais-je, sans quoi ma curiosité va s'accroître et je passerai une nuit blanche. » Jusqu'alors, tout était normal, jamais je ne me couchais plus tôt. Mais la limite était atteinte. En la dépassant sans dormir, je tombais dans l'exception. Je suis à un âge où l'on essaie de commander à la douleur, où l'on ne veut surtout pas déranger ses habitudes, à cet âge où la vie vous a profondément marqué, où l'on redoute l'exception, tellement on a gardé de sa jeunesse la peur des excès. Je n'ai pourtant guère commis d'excès, mais il en est souvent ainsi que ce sont ceux qui redoutent le plus certaines choses qui en ont justement le moins souffert. Je retournai dans ma chambre, refermai les portes et me couchai en me sermonnant. Il faut que je dorme, il faut tout oublier jusqu'à demain. Il faut que je dorme. J'éteignis la lumière. Je fermai les yeux et, m'appliquant à ne penser à rien, m'efforçai de m'endormir. La lutte pour le sommeil est déjà quelque chose d'effrayant. On n'a pas de prise. La seule volonté de dormir vous tient éveillé. Je ne pensais à rien, mais il y avait pourtant en moi la volonté de dormir qui, à mon insu, me tenait éveillé. Je me retournais sans cesse. De temps en temps, à travers l'obscurité, venait à moi de très loin le tintement d'une horloge. Tout était noir. Je n'avais déjà plus de volonté. Pourtant, je ne dormais pas. Combien de temps s'écoula ainsi, je ne le sais pas. J'avais complètement perdu la notion du temps. J'étais absolument comme si je dormais. Pourtant, une conscience suffisante faisait que je savais que j'étais éveillé. À la longue, après m'être retourné je ne sais combien de fois, mon engourdissement se fit plus grand. Une joie minuscule m'envahit. J'allais perdre toute notion des choses lorsqu'insensiblement, j'eus la sensation que mon cerveau grossissait, que mon corps était de plomb, que tout mon être se gonflait et que, à mesure qu'il gonflait, je pouvais de moins en moins remuer afin de reprendre mon aspect habituel. Une sorte de mal de cœur me donnait envie de m'asseoir, mais j'en étais incapable. Il est un signe à quoi les médecins reconnaissent que l'on s'intoxique. Ce sont les réveils trop matinaux. À l'aube, averti mystérieusement qu'un mal nous envahit, on s'éveille pour le chasser. J'étais averti. Je sentais qu'il fallait que je reprisse conscience, mais je demeurais comme collé à mon lit. Brusquement, j'eus l'impression que toutes les portes s'ouvraient à la fois, celle de l'entrée aussi, cette dernière ainsi ne me défendant plus, que l'appartement était éclairé et que Madeleine avançait vers moi. Je la voyais venir de loin et je suffoquais. Elle s'approchait sans prendre la moindre précaution de marcher sur la pointe des pieds. Je poussai un cri strident et je me dressai sur mon séant. Mes yeux étaient ouverts. Je cherchais Madeleine partout, croyant qu'elle s'était cachée. Durant un instant, je demeurai certain qu'elle était à côté de moi. Puis, brusquement, comme si une main se posait sur mes yeux, je ne vis plus rien. En tâtonnant, je tentai d'allumer, mais je voulus le faire si rapidement que je ne trouvais pas la poire. Alors, bien que j'eusse complètement repris conscience, tout me sembla de nouveau éclairé, mais aussitôt tout retomba dans l'obscurité. Finalement, je fis de la lumière, regardai ma montre. Il était 2 heures du matin. Encore étourdi, je me penchai machinalement sur la place vide du lit, avec l'espoir que Madeleine l'occupait. Il n'y avait naturellement personne. Pour devenir raisonnable, comme j'avais parlé tout à l'heure à Madeleine, je me mis à parler à haute voix. « Il faut que tu dormes. Tout s'arrangera. Demain matin, Madeleine reviendra. » J'éteignis et, chose étrange, je m'endormis en songeant que cette fois, j'avais été victime d'une véritable hallucination.